Il faut vous imaginer un tout petit peu la scène. Vous entrez dans la salle de spectacle et là, vous voyez une somptueuse cuisine avec trois gaillards en train de préparer la popote, une merveilleuse soupe. On hache les oignons, évidemment, on prépare la soupe. Et puis, on va bientôt se préparer à chanter. C'est réellement le spectacle amuse-bouche du Quatuor Bocal. Le Quatuor Bocal sont aujourd'hui les invités de Paris Ici la Musique avec Christian, Alain, Jérôme et Pascal. Et nous entendrons également justement des extraits d'un spectacle enregistré il y a un petit peu plus d'une semaine à Vic. Le Quatuor Bocal amuse-bouche, les invités de Paris Ici la Musique.
Bon, enfant, je lance le show. Si Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu, on pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. S'il en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en poussant un peu, reste encore une petite place.
On découvre un petit peu le Quatuor Bocal aujourd'hui, le Quatuor Bocal qui en est à l'aube de son 10e anniversaire et qui tourne actuellement avec un spectacle de chansons, j'allais dire de chansons gourmandes, et un spectacle qui est intitulé Amuse-bouche, j'allais dire Amuse-gueule, mais ça irait aussi finalement, mais Amuse-bouche c'est peut-être un petit peu plus correct. Quatre voix, comment est-ce que ces quatre voix se sont-elles rencontrées? Comment est-ce que vous avez lancé l'histoire du Quatuor Bocal?
Alors, c'est une histoire qui a déjà sa légende, c'est ça qui est beau, c'est qu'on était partis en voyage avec trois d'entre nous, donc Yvan, Pascal et moi, pour accompagner des étudiants en Italie, et on avait été en Toscane à San Gimignano. Et à San Gimignano, c'est un magnifique village toscan, et il y a notamment un puits, et on avait commencé à chanter les trois dans ce puits, et ça résonnait magnifiquement, et on s'est dit « Ah, mais c'est génial, nos voix vont bien ensemble, mais il manque juste une voix un peu plus aiguë », et on a tout de suite pensé à Jérôme, et c'est comme ça qu'on s'est dit en rentrant « Jérôme, il faut absolument qu'on fasse un quatuor ensemble », et c'était parti.
Et donc tout était évident, vous étiez les quatre ensemble il y a 10 ans, et aujourd'hui ce sont les quatre mêmes qui forment le Quatuor Bocal.
Eh bien oui, c'était comme ça. Pascal et moi, on travaillait auprès des jeunes de la région d'Yverdon. Et à l'époque, Yvan et Jérôme étaient jeunes.
Et
ça a changé depuis.
Ils participaient à nos activités. Et c'est comme ça, c'est dans ces activités de jeunesse qu'on s'est rencontrés et que les liens se sont tissés.
La vigne en treille, la voilà la jolie treille. La vigne en treille, la voilà la jolie treille. Treille, treillons, treillons le vin. La jolie treille au vin, treille, treillons, treillons le vin. La jolie treille au vin.
Quatre chanteurs vachement sympas, le Quatuor Bocal. À quel moment ce titre est-il arrivé, Pascal?
Il est arrivé quelques années plus tard, parce qu'au début, on a développé un concept où on voulait changer de nom à chaque concert. Donc on s'est appelé le Quatuor Scrabble, le Quatuor, je ne sais plus.
Vélo.
On faisait tous les jeux de mots possibles. Tous les jeux de mots possibles et inimaginables. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en termes de marketing, c'était pas très très bien d'avoir plein de noms différents. Donc après, le Quatuor Bocal, le nom est venu un peu... je sais pas ce qui a initié ça, mais on a fait après pendant plusieurs années des concerts où on était engagé. Et puis le concept, c'était justement d'avoir avec nous un bocal dans lequel il y avait des objets. Et le concert se déroulait de la manière suivante. Le public tirait chaque fois un objet et puis ça se rapportait chaque fois à une chanson. Et puis on faisait notre concert comme ça. Ce qui fait que les chants étaient toujours les mêmes, mais l'ordre dans lequel le concert se déroulait variait. Ce qui fait que des fois, on avait tous les chants rythmés au début, puis on finissait par les trucs très très calmes, ou bien l'inverse, ou bien voilà. Mais après, on a toujours bien aimé rigoler ensemble et on arrive toujours un peu à rebondir en fonction de ce que les gens tiraient.
Est-ce qu'au début, c'était une franche rigolade et est-ce qu'il y a un moment donné où les choses devenaient vraiment sérieuses parce que ça marchait, parce qu'il y avait un public, puis parce qu'il y avait peut-être une demande?
Ben, c'est à la fois, c'est resté une grosse rigolade, mais avec un côté peut-être un peu plus sérieux. C'est-à-dire que je pense qu'on a cette faculté de faire les choses à fond. C'est-à-dire que quand on fait de la grosse rigolade, c'est vraiment de la grosse rigolade. Et puis quand on travaille vraiment. Mais il y a toujours cet esprit de, voilà, ben, on est toujours les quatre mêmes depuis le début. On est vraiment des amis. Et puis je pense que ça pourrait pas être, si un voulait partir, je pense que on pourrait pas prendre un autre et le greffer dans le quatuor vocal. Le quatuor vocal, c'est nous quatre. Et puis c'est comme ça, quoi.
Piotr! Bon, Piotr, tu descends au deuxième sous-sol. Pas le premier, le deuxième sous-sol, ok? Tu me suis? Ok, jusque-là tu me suis, très bien, parfait. Ensuite, au deuxième sous-sol, tu as trois entrées. Celle de gauche, celle du fond, celle de droite. Tu prends pas celle de gauche, tu prends pas celle de fond, tu prends celle de droite, ok? Tu me suis jusque-là, c'est très bien, après ça. Deuxième sous-sol, celle de droite, parfait. Ensuite, dans la pièce, tu as trois étagères. De nouveau, à gauche, centre, à droite. C'est pas à droite, tiens, c'est le changement par rapport à l'entrée. C'est pas au milieu, c'est à gauche. C'est à gauche, retiens bien, c'est à gauche. Ensuite, à gauche, tu as trois étagères. Tu as la première qui est juste à l'entrée, ensuite la deuxième du milieu et la troisième au fond. Tu vas à la troisième, pas la première, pas la deuxième, la troisième. Tu me suis jusque-là, très bien, parfait. Ensuite, dans cette étagère, il y a trois niveaux. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Jusque-là, un seul, c'est compté, un, deux, trois. Très bien, ok. C'est au deuxième niveau. Un, deux, voilà, très bien. Deuxième, ok, tu me suis jusque-là, parfait, impeccable. Ensuite, au niveau de l'étagère, tu as la farine. Dans le box bleu, tu as les haricots. Et c'est là qu'il faut aller, dans le box bleu. Dans le box bleu, tu as des boîtes. Il faut me ramener une boîte maintenant, immédiatement. Tu me suis jusque-là? Très bien, parfait.
Réserve.
Oui.
Haricot.
C'est ça, oui. On doit chanter ce que l'on est. Exaltez tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'on a poème. Je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico.
Corico,
à qui les doux quand vient l'aurore, devoir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, On voit pousser les haricots.
Ce n'est pas toujours évident quand le seul instrument que l'on a à disposition, c'est sa voix.
Non, c'est sûr, d'autant plus que c'est un travail. On n'est pas tous chanteurs à la base, hein. On chante vraiment pour le plaisir à la base. Et puis le travail, c'est de réussir à faire sonner quatre voix d'hommes dans des tessitures qui vont bien. Alors on a la chance justement dans ce quatuor d'avoir quatre voix très complémentaires, entre une basse bien profonde de Christian, moi qui suis assez ténor, on va dire léger, et puis les deux voix médianes de Pascal et Yvan qui sont entre baryton et ténor moins léger, on va dire ça comme ça.
Ténor lourd.
Et voilà, ténor lourd. Du coup, c'est sûr que on a dû apprendre à chanter déjà à quatre voix, parce que c'est pas évident, ça vient pas tout seul. Et puis on a aussi une force dans le quatuor, c'est qu'on fait nos arrangements un peu sur mesure. On a par la suite fait appel à des arrangeurs, mais au tout début du quatuor, on a fait des arrangements entre Yvan et moi fait sur mesure, cousu main pour les tessitures de chacun.
Et ça, pleure, car c'est la fin des haricots.
Par ici, la musique.
Comment la musique est arrivée à vous, si vous pensez à vos jeunes années, au premier moment où vous avez commencé de chanter dans un chœur à l'école ou comme ça, vous avez encore des souvenirs précis?
Alors moi, Yvan. Merci. Moi, j'aimerais rendre un vivant hommage aux fanfares, parce que moi, je viens du monde de la fanfare, d'une famille qui était très fanfare comme ça. Fanfare qui souffre un peu d'un problème d'image, où on trouve que c'est un peu ringard. Et je me rappelle que j'avais entendu à 16 ans un trompettiste italien classique qui avait fait une immense carrière, qui lui rendait hommage aux fanfares de village en disant « ben, vous voyez tout ce petit travail familial et puis de mettre en place juste des polkas et des marches, même si c'est un peu ringard, il y a tout plein de musiciens qui après en font. » Donc, et c'est vrai que si on regarde dans nos connaissances, plus dans les instrumentistes, mais il y en a plein qui ont commencé soit dans des initiations liées à des fanfares ou comme ça. Donc faites de la fanfare, voilà.
Et vous, votre premier pas dans la musique, c'était la fanfare?
Oui, alors ouais, j'ai fait de la trompette, et puis après j'ai un peu fait tout plein d'instruments. J'ai papillonné parce que je voulais tester des autres choses. Et puis le chant, c'est venu un peu, c'est venu avec la comédie musicale, je crois, qui avait été écrite par Christian.
Oui, j'avais fait ça il y a bien des années. C'était une expérience assez redoutable avec des Mexicains. Et j'avais proposé un rôle à Yvan qui avait accepté. Et c'est un beau souvenir, mais c'est un souvenir assez lointain maintenant. Mais j'avais surtout écrit, moi j'écris surtout les paroles, disons, parce que moi la musique, j'ai malheureusement pas eu une formation musicale très complète. Donc le solfège a toujours été un problème pour moi. Mais j'ai plutôt découvert la musique en chantant dans des chœurs de jeunes. Et puis après dans des chœurs très divers, j'ai aussi été dans des chorales de village, dans des chœurs gospel. Bon voilà, comme je suis le plus âgé du groupe, j'ai plus bourlingué que les autres. Mais voilà, et puis depuis maintenant bien des années, j'adore chanter.
Souvent lorsque l'on croise des chanteurs dans des chœurs, ils nous disent c'est incroyable ce que le chant nous apporte. Est-ce que pour vous quatre, il y a quelque chose de particulier, notamment dans le quatuor vocal? Est-ce que ce chant-là vous apporte vraiment quelque chose, une liberté, un voyage un peu particulier? Pascal?
Mais on dit que chanter, ça fait du bien à l'âme. Alors moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de ça, en fait. Moi, je me rends compte que je chante assez souvent dans ma voiture ou comme ça. Ouais, c'est dur de répondre à cette question, mais moi, je pense que ça me fait du bien intérieurement de chanter. Ça me fait voyager, ça, les soucis partent un petit peu à côté. Et puis du coup, on est vraiment... Puis après, il y a ce qui se passe, ben, les liens que ça crée. Même si on ne discute pas ensemble, le simple fait de chanter, c'est une expérience commune qui fait qu'elle va créer des liens. Et ça, moi, je suis toujours assez émerveillé. Puis je pense que dans ce qu'on vit entre nous, il y a ça aussi. Il y a le fait de chanter qui fait que, même si on ne cause pas, ben, on chante ensemble et puis on partage quelque chose, quoi.
En emportant les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio.
On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Et là... avait travaillé 3 jours sans s'arrêter pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, un autre boîte et les tomates, les cornichons.
La musique.
Alors moi en fait je pense que je suis dans le chant et la musique depuis vraiment tout gamin parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui travaillait à la radio Sromonde. Il était technicien son et du coup je l'ai suivi depuis tout petit dans les coulisses, dans les opéras et autres. Et puis du coup dès que j'ai pu chanter dans un chœur d'enfant, enfin j'ai fait partie d'un chœur d'enfant qui ensuite, ce cœur d'enfant, quand les enfants muets, un autre cœur s'est formé à partir de ce cœur. Et puis du coup, je pense que depuis que j'ai, 5-6 ans, je chante et puis j'ai jamais arrêté de chanter. Donc pour moi, le chant et la musique en général, c'est un truc essentiel pour ma vie, simplement.
On va écouter, puisque vous en faites aussi un peu partie, on va écouter un extrait du dernier concert du Glow Gospel, le Glow Gospel qui fêtait son 10e concert. Ce sont des expériences, le Glow Gospel ou d'autres, qui apportent beaucoup d'amitié, puis qui est un enrichissement important quand on fait de la musique vocale.
Ce qu'on vit au travers du Glow Gospel, il y a surtout la dimension de l'énergie, en fait, et de pouvoir vivre une expérience très, très, très intense comme ça, de 3 jours de chant avec un concert à la fin, et puis c'est un concert accompagné par 7 ou 8 musiciens qui sont tous d'un niveau professionnel, donc c'est une expérience qui est, voilà, de faire ça pour la première, quand je l'ai fait pour la première fois, je me suis dit mais c'est extraordinaire quoi. C'est un investissement en temps très condensé, donc ça prend pas tous les lundis soirs, ce qui des fois est un petit peu pénible, donc là, et puis il y a une gratification à la fin qui est ce concert devant 500-600 personnes chantant avec 8 ans de chanteurs, 8 musiciens, et puis une dimension d'énergie qui est donnée par la directrice Sophie Coumernoir, et du coup il y a, voilà, c'est moi le Glow Gospel, c'est vraiment l'énergie que ça me donne pour partir plus loin, quoi.
Moi, je suis plus intervenu dans le Glow Gospel comme musicien, donc du coup, je venais un peu en spectateur. Moi,
dans les cuivres, donc, du coup.
Exactement, dans les cuivres, voilà, encore une fois la fanfare. Hein. Moi, c'est à chaque fois un bonheur parce que j'arrive le deuxième jour quand tout a déjà été mis en place. Et puis on se dit, bah, tiens, en une journée, plus bien sûr toute la mise en place individuelle, mais quel boulot incroyable ils ont fait. Et voilà, ça sonne, c'est énergique. Ouais, je retrouve ça de plein fouet.
Don't
quand on croise des musiciens, on demande un petit peu quel rapport ils ont avec leur instrument, parce qu'il y a des instruments qu'ils préfèrent, qu'ils ont achetés depuis longtemps, des instruments qui ont une histoire. On peut vous demander le rapport que vous avez avec votre voix, parce qu'elle est importante.
Ah, c'est clair que c'est un rapport assez intime, finalement, parce que c'est vraiment, on se dévoile avec sa voix. Et puis, c'est assez étonnant. Moi, c'est vrai que je me rappelle, enfant, je chantais comme un bourdon. Et c'était aussi, je pense, le signe d'un manque de confiance en moi, quoi, ou d'une mauvaise connaissance de moi-même. Et je crois qu'on peut apprivoiser sa voix et finalement l'habiter de sa personnalité. Et je pense que c'est ce qu'on peut offrir de mieux aux autres. C'est une voix qui est pleine d'une personnalité qui se donne comme ça, si possible, en chantant pas trop faux. Puis après, on voit ce que les gens ils en prennent.
Est-ce qu'il vous arrive de l'apprivoiser entièrement, votre voix, Christian ?
Ça, c'est difficile à dire, j'en sais rien. je crois pas. Je crois que justement, c'est aussi ça qui est... La voix, c'est quelque chose... On choisit pas sa voix. Moi, je rêverais de chanter aussi haut que Jérôme, ben, c'est pas possible. Et puis lui, des fois, il rêverait de chanter aussi bas que moi, c'est comme ça. Et puis, on doit faire avec, mais je crois que ça livre quelque chose de nous qui nous échappe. Et c'est aussi ça, je crois, qui touche les gens. Quand ils entendent quelqu'un qui chante, on voit bien, je veux dire, il y a des chanteurs qui expriment quelque chose par leur voix. On ne peut pas exprimer la même chose aussi en parlant ou en chantant. Quand on chante, on exprime quelque chose d'autre qui nous échappe. Et puis, c'est peut-être ça ce qu'on donne au public, finalement.
Jérôme, la voix, le rapport à la voix.
Bah, comme a dit Christian, je pense que c'est un des instruments les plus compliqués. Parce que... ne serait-ce que si on a le moindre soupçon d'émotion, ça passe directement à travers la voix. Du coup, on triche pas avec une voix. Un instrument, on pourrait tricher, mais avec une voix, on triche pas. S'il y a quelque chose où on n'est pas à l'aise avec sa voix, ça se sent tout de suite. Du coup, c'est vrai que je pense pas que c'est domptable, une voix. Enfin, on arrive à la travailler, mais comme a dit Christian, on a la voix qu'on a finalement. Alors voilà, c'est ce que j'ai sur ma voix.
Deux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien de plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes poupées, tu es divine. Rien de plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
Oui, allez, roule-moi.
Roule-moi la pâte.
Ça me plaît,
ça m'émeut.
Quand je vois
voltiger les mains blanches de mon cordon bleu.
Mieux encore que dans la chambre,
je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
Est-ce pour ta tarte à pomme que je me lèche les babines? Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Si ce n'est que mes propres mains posées sur ta poitrine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
Oh, c'est pas de la tarte,
la pâtisserie.
Non, c'est pas
du tout cuit.
Faut lever la pâte,
et cela exige beaucoup d'énergie.
À te voir planer ainsi, je retrouve mon âme enfantine.
Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
C'est comme si elle était ma mère, en même temps que ma gamine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
Est-ce qu'il y a des voix qui vous ont marqué?
Je me sens pris de court. Des voix qui m'ont marqué. Alors moi, c'est dans mes jeunes années. Moi, il y a mais la voix du chanteur de U2, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ou vraiment. Mais j'aime bien ce que dit Jérôme par rapport à l'émotion. C'est que je pense que c'est ça, c'est de réussir à faire passer une émotion. Après moi, des voix comme celle d'Aretha Franklin aussi, c'est des choses qui moi me bluffent complètement, parce que Ce qui est bluffant, en fait, c'est qu'on a l'impression que justement, ils ont travaillé leur voix avec un niveau de technique qui moi, m'impressionne, parce que moi, je suis vraiment un grand amateur et j'ai un rapport à ma voix qui est... Voilà, il y a 4 jours, j'étais à faune parce que ma voix, elle n'est pas toujours très, très bien placée. Et dès que je parle trop, elle se fatigue très vite. Alors du coup, les gens qui ont vraiment cette technique de la voix, moi, ça m'impressionne, quoi. Je trouve beau les gens qui arrivent à faire un peu ce qu'ils veulent avec la voix. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un bon compagnonnage, mais il y a quand même des fois où dans des chants, d'un coup, je dois faire une note et j'ai l'impression que c'est un peu un saut en élastique. Je dis, OK, oui, je crois que c'est là et j'y vais. Et ça tombe bien, c'était la bonne, mais il y a vraiment toujours un truc où je ne suis pas toujours hyper sûr de moi. Voilà. Mais en même temps, j'aime bien ce défi. Après, je pense que ce qui me sauve, c'est que j'ai une assez bonne oreille. Donc, si tout d'un coup, le saut élastique est mal parti, j'arrive à soit à m'arrêter ou à corriger parce que j'entends que c'est pas ça. Voilà.
Faut espérer que le retour soit bon. Quoi.
Exactement. C'est exactement ça. Ouais.
Est-ce qu'il y a des moments de trac particuliers lorsque vous arrivez en scène ?
Oh, ben, certainement la première note, quoi. Là encore, il y a toujours des. Je pense que les concerts sont une succession de petits sauts à l'élastique. Moi, je sais que c'est les premières notes, mais ça, c'est ça. Je suis comédien, donc même les premières répliques, c'est la même chose. Quand je fais de l'impro, c'est la première impro. Alors bon, avec l'expérience, ça commence à passer. Il y a toujours un petit stress, forcément. Et puis, du coup, la voix, là encore, hein, pour paraphraser Jérôme, on triche pas, donc il y a des fois une petite nervosité. Et puis, c'est tant mieux, parce que le spectateur assiste à un spectacle vivant, donc il roule avec nous dans cette émotion, cette petite tension, cette fébrilité de début.
Si je vous demandais une dernière chose, si puisqu'on est là tous autour du micro, si je vous demandais de chanter quelque chose à cappella évidemment, mais est-ce que c'est envisageable ?
Tout est envisageable.
Ut globalia lisit scapta diledo, diledo, diledo. Sazva naitse lisit censa alledo, diledo, diledo. Stessa mamma Diana vidis dillero, dillero, dillero. Na pazaira ciasciatta dillero, dillero, dillero. Dilli, dille, dilli, dillero, dillila, dillo, dillilele. Dilli, dille, dilli, dillero, dillila, dillo, dillilele.
Nasai cedia si fiatta dillero, dillilero, dillero.
Na buleria la sciatta dillero, dillilero, dillero. Dillilili, dillilile, dillililero, dillilila, dillilo, dillilililele. Dillilili, dillilile, dillililero, dillilila, dillilo, dillilililele.
Ut guvarialis ic cata dillero, dillilledo, dillilledo. Sas vanaise lis incenza
musique.